invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Salomon Lévy, que beaucoup de gens dans la communauté, ailleurs, à l'hôpital où il a exercé en tant que médecin, connaissent bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Lévy, dans ces studios de Radio Judaïka, dont vous êtes également un des membres fondateurs, dont vous avez été vice-président pendant des années. Je sais que je suis arrivée au moment où vous étiez effectivement en fonction de vice-président et ça a toujours été un grand plaisir de travailler avec vous et donc aujourd'hui de vous interroger. Salomon Lévy, bonjour.
Bonjour, bonjour et merci pour cette introduction très flatteuse. J'étais effectivement vice-président de la Radio Judaïka et j'ai gardé, comme on peut dire, toutes les cartes de visite qu'on m'avait faites imprimer en mon nom. Alors maintenant, je ne peux plus dire que je suis vice-président, je suis, comment on peut dire...
Honoraire.
Voilà, honoraire ou à la retraite, comme vous voulez. Les Anglais ont un mot très beau pour retraité, ils disent retired, retiré, oui. Retiré de la circulation.
Mais vous êtes encore très présent dans tout un tas d'autres actions, oui, au sein de la, oui, communauté. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de faire un focus sur votre action auprès du comité interreligieux de la région Grand Est. On vous voit souvent. Alors, distiller la parole et raconter de votre expérience. Je sais que vous donnez beaucoup de votre personne auprès des plus jeunes, des collégiens, des lycéens. C'est important pour vous de faire un témoignage de votre vécu. Mais tout au départ, vous êtes un des membres fondateur du comité interreligieux. Comment ça s'est passé? Quelle était votre volonté?
En réalité, si vous vous souvenez bien, c'est Adrien Zeller qui était président du conseil régional qui, à la suite de la dégradation de tombes à Herlisheim dans le Haut-Rhin,
oui,
a dit il faut faire quelque chose. Il faut faire parler les gens de différentes religions pour qu'ils se connaissent mieux. Et c'est de là qu'est parti le comité interreligieux. Et nous sommes deux personnes qui sommes là depuis le début. C'est le père Étienne Huberal, qui était un de mes anciens élèves d'ailleurs, et moi-même. Et nous continuons à le faire. Et maintenant, le comité interreligieux est placé sous la présidence de Gabriel Rosner.
Bah écoutez, voilà. Jolie continuation. Tout au départ, ce comité a été mis en place pour quelles raisons? Quel était l'objectif et quelles ont été vos missions?
L'objectif au départ, c'était mieux se connaître les uns les autres pour ne pas faire des actes d'anti-sémitisme, d'anti-islamisme, d'anti-christianisme, d'anti-quelque chose. Et je crois que dans notre comité, nous avons réussi à être ce qu'on appelle en hébreu « hevra », une bonne, comment on peut dire, camaraderie entre les uns et les autres. Il y a 8 religions qui sont représentées. 8 religions qui sont représentées au comité interreligieux aujourd'hui. Ce sont les juifs, pour ne pas les oublier.
Bien sûr.
Les musulmans, les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, ça fait 2. Et une troisième catégorie de chrétiens, je ne sais plus quoi. Les hindouistes, les bahaïs, et j'en oublie un.
Les bouddhistes, peut-être.
Les bouddhistes, voilà. Les bouddhistes. Et ma foi, quand nous nous rencontrons avec plaisir et nous essayons de monter des activités qui sont des activités communes. Ce qui s'est passé d'ailleurs le 12 septembre dernier avec le rendez-vous avec les religions qui s'est passé place Saint-Thomas.
Oui.
Je crois, en ville, et qui rassemble plusieurs centaines de personnes qui viennent écouter, qui viennent échanger, qui viennent voir. Il y a des spectacles, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est très bien. C'est très bien parce que les gens se frottent. Ils ne se connaissaient pas au départ, ils se connaissent après. Voilà.
Quelles sont vos relations entre les membres donc, de toutes ces confessions dont vous parliez, 8 au total? Quelles sont vos relations entre vous? Évidemment, aucun prosélytisme. Vous êtes là pour partager votre culture et votre religion au plus grand nombre, en direction souvent des jeunes. Entre vous, ça se passe comment? Vous voyez, vous mettez un plan d'action en place pour voir de quelle façon vous allez pouvoir partager cette culture-là?
Nous, bien entendu, nous mettons un plan d'action en place, surtout nous agissons. Nous agissons. Donc ce n'est pas un comité qui est un comité purement figuratif,
oui,
mais c'est un comité d'action. Et parfois, les actions sont intéressantes, même du point de vue pédagogique, du point de vue connaissance. Par exemple, on a édité une petite plaquette je n'ai pas eu l'idée de vous en apporter parce que je n'en ai qu'une, sur le pèlerinage, le sens du pèlerinage. Le pèlerinage chez les juifs, le pèlerinage chez les musulmans, le pèlerinage chez les chrétiens, et ainsi de suite. Une très belle plaquette qui est une plaquette instructive et qui parle de, comment on peut dire, de quelque chose qui est très important, le pèlerinage.
Oui.
Le pèlerinage, c'est un retour aux sources, et à partir de là, on voit comment ça s'est continué jusqu'à nous. Ça, c'est un. Et j'espère qu'on va avoir d'autres actions dans ce genre-là.
Vous avez également accompagné des lycéens avec, le comité interreligieux de la région Grand Est, des lycéens à Auschwitz pour ce voyage sur le travail de mémoire qui fait partie du programme des lycéens. Pour vous, c'est important d'accompagner les élèves pour leur amener des éléments en plus, ou pour vous, pour leur parler de votre expérience, de choses que vous connaissez ?
Mettons que quand je rencontre des jeunes, en aucun cas j'essaie de culpabiliser une communauté. En aucun cas. Ou un groupe d'hommes. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas hier, nous ne sommes pas avant-hier. Nous avons une mémoire, bien sûr, et nous ne pouvons pas nous passer de notre mémoire. Personne ne peut effacer sa mémoire, sauf s'il est malade. Donc nous gardons cette mémoire intacte. Mais nous savons qu'il faut construire un avenir. Et un avenir, on le construit avec les jeunes. Alors j'ai amené des jeunes à Auschwitz, bien sûr. Et je leur ai montré toute l'horreur d'Auschwitz. Toute l'horreur. Et l'essentiel, c'est de savoir qu'il ne faut pas refaire ça. Il ne faut pas refaire ça. Que beaucoup de gens s'en repentent. À Auschwitz, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai visité une salle où on parlait de 9000 prêtres qui ont été tués par les nazis. Ils ont été tués pourquoi ? Pourquoi les 9000 prêtres chrétiens, catholiques ou orthodoxes, je n'en sais rien, ont-ils été assassinés par les nazis ? Tout simplement parce qu'ils ont tendu la main à des juifs. Vous voyez ? Donc je dis tendre la main à quelqu'un qui souffre, c'est abominable. Et j'ai une petite histoire qui est très très belle. C'est un groupe de personnes qui étaient là dans la rue, en train de regarder quelqu'un qui est par terre, qui est tombé. Alors chacun y va de son commentaire. Oh, le monsieur, il aurait dû être plus prudent que ça. Oh, le vieux monsieur, il aurait mieux fait de rester chez lui à la maison. Et chacun allait de son commentaire. Et un petit garçon fend la foule, va chez le vieux, lui tend la main et essaye de le relever.
Un acte vaut mieux que, voilà, que des discours.
Hein. Et je dis, nous devons être ce petit enfant-là pour les gens qui souffrent, les gens qui tombent, les gens qu'on doit relever, en quelque sorte. Et ça s'adresse à tout le monde, sans exception, quelle que soit sa religion. Quand je parle d'être humain à des élèves qui viennent, par exemple, visiter la synagogue, je leur dis quelque chose qu'un rabbin m'a mis dans ma tête. Hein. C'est que nous avons tous une petite parcelle de divinité en nous. Et dans la mesure où nous sommes croyants, nous n'avons pas le droit de souiller cette parcelle de divinité. Donc nous devons à chaque être humain un respect complet. Nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais à l'image de Dieu, c'est une image, bien sûr. Je ne vais pas faire un commentaire biblique, je ne saurais pas le faire. Mais il faut garder dans l'esprit que si nous sommes croyants, à l'image de Dieu signifie que Dieu et bonté. Quand Dieu est violent, il est violent contre la violence. Mais il est bonté. Donc nous devons en quelque sorte être bons avec tout le monde sans exception. Il a créé des êtres humains et il ne leur a pas dit vous êtes juif, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, ou vous n'êtes pas, ou vous êtes athée. Il a créé des êtres humains. Et c'est ensuite qu'est venu, bien entendu, le fait. Ce que je peux dire, la seule chose qui m'intéresse dans la religion, c'est quand elle répand en quelque sorte cet amour du prochain. Et qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain ? C'est pas un amour physique, c'est pas un amour, c'est simplement reconnaître en lui quelqu'un qui a la même valeur que soi. C'est tout.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et ça, c'est un message qui passe par exemple chez les lycéens quand vous allez parler devant leur classe ou que vous les emmenez faire une visite de la synagogue. Vous entendez un écho à ce que vous dites ?
J'essaye de le leur dire. Certains professeurs m'ont dit qu'il y a eu beaucoup d'échos positifs. Quand je fais visiter la synagogue à des jeunes, je sais qu'ils peuvent être juifs, qu'ils peuvent être chrétiens, qu'ils peuvent être musulmans, rarement juifs, rarement. Mais les professeurs m'ont dit quand ils retournent à l'école, ils sont plus calmes vis-à-vis des autres. Parce que j'essaie justement de faire passer ce message, que l'homme, en quelque sorte, ne vit pas seul, il vit avec les autres, et qu'il s'agrandit en quelque sorte en vivant avec les autres, et non pas contre les autres. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très, très important.
Une autre action importante dont fait partie le comité interreligieux, c'est le mois de l'autre mis en avant par la région Grand Est. Une façon d'inculquer d'accompagner les actions menées par les lycéens un mois dans l'année, de les récompenser. Vous faites partie de ce processus-là également ?
Ben, mettons que l'action que je mène avec d'autres, bien entendu, pour les visites de synagogues et les lieux de culte, le Covid nous a abîmés.
Oui, comme tout le monde.
Comme tout le monde. Et avant le Covid, c'était très bien parce que j'organisais une visite de mosquée, une visite d'église et une visite de synagogue. Et bien entendu, j'avais la collaboration d'un prêtre, le père Hubéral en particulier. Oui. J'avais la collaboration des musulmans, en particulier chez les musulmans Fouad Saleh ou bien M. Allah. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Les jeunes venaient parfois en ricanant, qu'est-ce que c'est ? Et ils partaient avec des connaissances. Avec des connaissances, c'est un message. C'est que l'autre n'est pas étranger à soi. Vous voyez ? L'autre n'est pas étranger à soi. Ça, c'est important.
Dans la pratique, il y a des différences, mais on va dire l'espoir de la jeunesse reste le même. C'est d'aller vers un idéal, c'est d'être bien avec les autres.
Bien sûr. Et moi, en quelque sorte, je suis pétri d'une petite partie de culture juive. Nous disons plusieurs fois par jour, n'oubliez pas que vous aviez été esclave en Égypte. Or, esclave en Égypte, le mot ne dit plus rien aujourd'hui en tant qu'action physique. Mais nous avons été esclaves, ça signifie qu'on a été en quelque sorte privés de la liberté de penser. Ça, c'est l'esclavage le plus abject. Quand on prive quelqu'un de penser et de pouvoir s'exprimer aussi. Alors donc, nous le disons plusieurs fois par jour dans nos prières et ça nous façonne. Ça signifie que le fait d'avoir été étranger dans un pays nous montre que notre existence sur Terre est une existence fragile et qui peut être remise en question, surtout nous les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je rencontre des jeunes, je leur dis que nous sommes tous égaux vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre Créateur. Que vous le croyez ou pas. Et nous avons une fête qui vient de se passer, Sukkot,
oui.
Hein, qui célèbre en quelque sorte 70 nations. À l'époque du Temple, on offrait 70 sacrifices. On pensait qu'il y avait 70 nations. Je sais qu'à l'ONU, il y en a beaucoup plus que 70. Et un sacrifice par nation, vous voyez. C'est donc une fête qui est une fête universelle. Universelle. Et en réalité, elle exprime l'universalisme de la pensée juive. Voilà, ça c'est des choses que je peux dire aux jeunes, ils le veulent ou ils ne le veulent pas, le message, vous ne pouvez pas savoir comment un jeune peut...
Comment ça peut faire résonance en lui et avoir un impact sur sa vie future. Hein.
Sur sa vie future, mais j'espère que ça reste quelque chose. En aucun cas je ne dis un mot de travers à propos de quelqu'un ou à propos de sa religion, en aucun cas. C'est essentiel. Donc c'est bon. Et par-dessus le marché, je connais relativement bien le christianisme, le judaïsme, l'islam. Je leur dis ce qu'il y a de bien. Je prends un exemple. Quand ils visitent la synagogue, il y a la lumière au-dessus de l'arche sainte que nous appelons la lumière éternelle. Alors on la fait briller là-dedans. Alors cette lumière, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente exactement ce que la lumière, celle qui chasse l'ignorance. Celle qui, en quelque sorte, éclaire, au sens propre et au sens figuré. Et je leur ai dit, n'oubliez pas que la lumière est présente aussi dans les autres cultes, chez les chrétiens et chez les musulmans. Et si vous alliez à la mosquée, la grande mosquée de Strasbourg, il y a un verset du Coran qui est écrit au bas de la coupole et qui dit, qui parle justement de la lumière du monde. C'est vrai que chacun croit ce qu'il croit, mais faut pas, comment on peut dire, essayer de minimiser cette croyance. En particulier, nous nous prions vers l'Est. Pourquoi vers l'Est? Vers Jérusalem. Les musulmans à Strasbourg prient vers l'Est. Pourquoi vers l'Est? Vers la Mecque. Et les chrétiens aussi prient vers l'Est. Pourquoi?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Eh bien, parce que Jésus est comparé au soleil levant.
Très bien.
Voilà. Donc nous prions tous dans la même direction, sans exception. Nous prions tous vers notre Créateur. Et je crois que quand on veut faire de l'interreligieux, il faut essayer de voir ce qui peut nous rassembler, ce qui peut nous unir, et non pas ce qui est dissemblable. Heureusement que nous sommes dissemblables l'un de l'autre. Je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, j'étais dans une salle d'opération, et c'était une opération d'une cloison nasale. Oui. Et le professeur de médecine qui opérait, au microscope, bien sûr, opérait cette personne qui était dissymétrique. Et je lui dis, mais elle a une dissymétrie. Il m'a dit, heureusement, la dissymétrie des deux côtés du visage fait la beauté du visage. Quand il est strictement symétrique, ça n'est pas. Et alors, je me souviens que j'avais une fois visité un malade, j'ai rien pu faire pour lui parce qu'il était déprimé, c'est tout ce qu'il avait, qui avait une femme d'une beauté formidable, mais qui était figé. Il était figé. Elle ne souriait pas, rien du tout. Le monsieur avait devant lui, il avait choisi une jolie poupée, oui, mais une poupée qui ne savait rien lui dire. Et c'est peut-être pour cela qu'il était malade. Inconsciemment, mais c'est peut-être pour cela. Alors moi, je crois que nous sommes tous différents les uns des autres. Nous sommes différents même dans notre moitié gauche et dans notre moitié droite. Et c'est heureusement, nous faisons des mimiques qui font rire, mais et c'est très très bien. Quand je viens ici, je vois les petits-enfants dans cet espace du centre communautaire, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me réjouit. Les petits-enfants viennent de façon innocente, ils vous tendent les bras, malheureusement je ne peux pas lever un enfant, je ne peux plus lever un enfant, mais si je lève un enfant actuellement, les gens vont se demander, ce monsieur il est un peu...
Bon. Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Mais n'empêche que ces enfants-là représentent l'amour du monde. Ils sont innocents. Et c'est cette innocence-là qu'il faut relever, qu'il faut avoir en soi. L'innocence du geste de l'enfant qui vient vers vous. C'est tout. Il faut répondre. Je n'ai pas de bonbons en poche parce que je sais que les parents n'aiment pas qu'on donne des bonbons aux enfants. Il y a un dentiste qui m'a dit « ça, c'est interdit pour moi ». Alors, je respecte. Je ne donne pas de bonbons.
Salomon Lévy, ça a été une belle conversation avec vous. Merci beaucoup pour votre générosité. Donc, je rappelle, vous êtes membre du comité interreligieux de la région Grand Est. Et tellement plus pour nous tous ici à la radio, parce que voilà, vous faites partie, on va dire, de notre père ou de notre grand-père quelque part. Et puis, grâce à votre bienveillance, on a toujours été là et puis on a progressé. Et vous faites partie de cette belle énergie. Merci à vous.
Merci, merci Valérie, merci tous ceux qui nous écoutent.
L'invité de la rédaction.